Noël Champagne, bonjour.
Bonjour, madame.
Monsieur Champagne, bon, à peu près depuis quelques années, vous saurez me dire depuis combien de temps, la Fondation Amira attribue plus de 100 chiens par année à des familles, à des enfants qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de besoins du côté des personnes qui vivent avec un handicap visuel ou c'est une façon de s'adapter aux besoins de la population?
On peut être un peu les deux. Vous direz que le fait de vivre avec une cécité ou le fait d'être aveugle, c'est un phénomène de plus en plus rare chez l'humain, là. Compte tenu de l'avancement de la médecine, compte tenu des meilleures connaissances qu'on a sur les apports génétiques là, dans le développement, fait de telle sorte que rencontrer une personne handicapée de la vue, là, c'est rendu quasiment un phénomène assez rare. Et pure coïncidence, nous autres, dans les demandes, moi, j'avais beaucoup de demandes sur mon bureau dans les années 2000 et progressivement, j'ai commencé à décortiquer toutes ces demandes-là et je me suis retrouvé avec une population d'enfants qui présentaient, à cette époque, on parlait du trouble envahissant du développement. Oui. Et je restais moi-même très surpris en commençant à faire les recherches et de voir que c'est une prévalence excessivement importante là, dans la région, dans les grandes régions urbaines, principalement Montréal, Montérégie, Laurentides, Lanaudière. On en est à des taux de prévalence là. Comme à Montérégie, au moment où on se parle, on peut parler à toutes les 70 naissances, c'est un enfant qui va présenter un trouble s'apparentant à un trouble envahissant du développement ou un trouble autistique. Là.
Mm-hmm. Oui, c'est beaucoup. Bon, vous avez parlé, Noël Champagne, de ces études faites au début des années 2000, notamment 2006 à 2009, où vous avez suivi 120 familles. Ça a donné quel genre de résultats, ces études-là?
Les premières études qu'on a entamées, ça a démarré en 2003, où on s'est intéressé au phénomène de l'anxiété chez l'enfant et de toute sa famille. Et on est allé chercher de la salive dans la bouche des enfants et des mères principalement pour y extraire du cortisol, qui est l'hormone de l'anxiété et du stress chez l'humain. Et dans cette première étude qu'on a faite entre 2003 et 2006, on a observé que quand les familles se retrouvaient, les enfants âgés entre 5 et 10 ans et qui présentent un trouble autistique, que les enfants qui étaient en présence des chiens présentaient des taux de cortisol moins élevés, donc moins de stress, moins d'anxiété et des impacts importants sur leurs conditions de santé. Et par la suite, en 2006, on a mis sur pied une étude dont on publie encore des résultats parce que c'était une étude d'importance incroyable. On a suivi 60 familles pendant sur la variable du cortisol pendant 18 semaines comparé à des familles qu'on a suivies sans chien là, sur le cortisol. Et on a des différences significatives entre des familles dont les enfants vont présenter un trouble autistique avec le chien et sans chien.
Donc, si j'entends bien, autant des bienfaits pour l'enfant que pour sa famille.
Des bienfaits importants, là, des affaires auquel on n'aurait jamais estimé. Il y a même on a des résultats inattendus là, sur le phénomène d'un phénomène de régulation entre la mère et l'enfant, comme le cortisol qui varie, la mère le cortisol augmente, l'enfant augmente, la mère descend, l'enfant descend, ça se suit. Des fois, je disais comme une valse, si on veut. Là. Si on regarde ça, on est capable de visualiser ça sur deux lignes sur un oscilloscope et ça se suit, ces deux lignes-là. Et quand on introduit un animal, ça casse cette relation-là.
Oui. Des enfants, donc, qui ne parlaient pas, dans certains cas, et qui se sont mis à communiquer, à parler.
Ça a amélioré de beaucoup des affaires, principalement des choses auxquelles on ne s'attendait pas, comme le sommeil dans, chez les enfants qui présentent des troubles importants du sommeil, et on, la présence de l'animal fait en sorte qu'on va régler des problèmes de sommeil chez l'enfant et toute la famille. Et, l'air anodin, là, mais une famille qui dort, c'est une famille heureuse.
Ouais.
Quand des routines de nuit, c'est vraiment des dérangeants, les enfants qui se lèvent la nuit, soit qu'ils vont coucher avec les parents, où ils vont, ils font toutes sortes d'affaires la nuit qui peuvent être compromettre leur sécurité aussi. Là. Fait que ça, le sommeil de la famille, ça déjà la présence d'animal vient régler ça. Vient faciliter aussi de beaucoup des transitions, des affaires aussi simples que de s'habiller pour aller à l'école le matin. Ça devient comme facilitant. Et les comportements de crise aussi qui sont réduits. Les façon de m'exprimer, les familles vont dire plus de niaiserie, il y a plus d'humour, là. Il y a une amélioration dans le climat familial de façon importante là. Dans l'ensemble là, pour quand on rencontre les critères d'attirance de l'enfant à l'égard de l'animal, on se retrouve avec des résultats moi, je considère assez impressionnant.
Oui. Bon, on le sait, et vous êtes au courant, Noël Champagne, le chien souvent attire les gens. On est porté à aller flatter le chien, à vouloir jouer avec lui. Et ça facilite les contacts aussi avec l'extérieur pour l'enfant autiste.
Oui, oui. Mais aussi, ça force effectivement, il y a plus de... Les gens, ils se font poser plus de questions, ils sortent plus, mais... Le fait d'être en présence de l'animal est capable d'affronter des grandes surfaces, aller dans les centres commerciaux, aller au restaurant, aller dans des endroits publics. C'est comme le chien, il vient gérer une stabilité chez l'enfant dans son mouvement, dans son déplacement, et nécessairement est capable d'affronter des gens, de discuter avec les gens qui vont lui demander, vont dire « t'es pas aveugle, pourquoi t'as un chien?
»
Puis les enfants, effectivement, vont développer plus de socialisation avec l'animal.
Ça, c'est intéressant parce que, je le disais en introduction, là, on est plusieurs à connaître la présence du chien guide pour la personne qui présente une déficience visuelle, mais le chien d'assistance pour un enfant autiste, beaucoup moins. Le grand public est-il assez sensibilisé? Pourtant, je pense que votre programme existe depuis 2003, mais pourtant, c'est plus méconnu.
En fait, moi, j'en revenais pas l'an dernier, là, la campagne de jouer l'autisme, j'ai vu ça, moi, à Montréal, partout, des endroits pour, dans le métro, des indications pour l'utilisation du chien pour les familles d'enfants autistes. Il y a des causes importantes. Il y a un jugement qui a été rendu, je pense, peut-être à l'automne, mois de septembre, sur le fait, le droit du parent de pouvoir se déplacer seul avec le chien, même quand son enfant n'est pas là, dans des endroits publics, comme aller au restaurant, parce que son enfant va être à la garderie, on ne peut pas demander au milieu de garderie ou de l'école de s'occuper du chien lorsqu'ils ne connaissent pas ça, mais il y a un droit qui appartient aux parents. Fait que, on en a parlé beaucoup, mais c'est un domaine comme d'autres, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à l'utilisation des chiens pour aider les personnes handicapées. Il faut avoir tout de même un intérêt, là.
Oui. Justement, quelle est l'implication pour le parent lorsque le chien migrant, le chien d'assistance, arrive dans la famille? Je parle du tout début du processus.
Bien, d'une part, c'est une longue démarche, là. Il faut que les parents complètent une demande, complètent un formulaire, nous fassent parvenir des rapports diagnostiques pour qu'on... Puis par la suite, on va inviter la famille dans nos locaux, dans le cadre du programme qu'on appelle le programme de la Scola Mira, où on va évaluer l'attirance de l'enfant à l'égard du chien. On invite les familles dans un cubicule et on les laisse dans le cubicule une quinzaine de minutes, le temps de s'acclimater. Et par la suite, on va leur présenter un chien entraîné, gentil, puis on va leur donner quelques consignes et on va... Et au fur et à mesure, on va décoder les comportements de l'enfant à l'égard de l'animal. Où il va, par exemple, se positionner, où il va se placer, est-ce qu'il va parler au chien, est-ce qu'il va sourire, est-ce que les parents vont le supporter. Puis on va être en mesure de décréter l'admissibilité par ce qu'on appelle un facteur d'attirance de l'enfant à l'égard du chien. Si un enfant vient dans le local puis il passe son temps à jouer à un autre jeu que d'interagir avec le chien, on va s'interroger avec le, on va s'asseoir avec le parent puis on va discuter de ne peut-être pas nécessaire de s'embarquer dans dans une situation comme ça là. Parce qu'un chien, ça fait du poil, puis ça là, ça fait des besoins aussi à l'extérieur, puis pour ramasser ça, puis ça là. Ça n'a pas juste des avantages, là.
Oui, et puis comme vous le disiez tout à l'heure, le parent doit être très impliqué dans ce processus, à savoir que parfois, c'est lui qui devra l'amener au bureau si le chien ne peut pas être présent à l'école ou en milieu garde.
Exact. Ils doivent, une fois qu'ils ont complété l'admissibilité, après ça, il faut qu'ils viennent à des rencontres d'information avec le personnel chez nous pour vraiment que leur consentement soit le plus informé possible. Il faut qu'ils se soumettent à une résidence de 24 heures par jour pendant 7 jours, 8 familles en même temps, pour apprendre les rudiments, apprendre à interagir avec l'animal et des entraîneurs. Par la suite, des suivis, soit dans le milieu familial ou dans les milieux de travail, là, dépendamment de la situation des parents, où on a maintenant nos programmes, où c'est les jeunes adolescents qui vont à l'école, là, qui présentent un trouble de l'autisme et qui vont aller à l'école ou qui vont à l'école avec leur chien.
Noël Champagne, est-ce que le chien est entraîné de la même façon que pour un chien?
Les bases, c'est moins compliqué, là, mais c'est l'animal qui vient du troupeau de Mira. C'est un animal qu'on a hautement sélectionné avec ce qu'on appelle des caractéristiques d'un chien guide. Là. Un faible niveau d'activité, pas trop gourmand, pas de peur, un chien vraiment, ça, il prend un humain dans le nez pour être confortable. Plutôt que de toujours avoir le goût d'aller dans le bois puis de faire élever une perdrix, là. c'est un peu différent. Fait que c'est le même animal. Les mêmes critères pour sélectionner les animaux pour la mission de MIRA, soit chien guide, chien d'assistance personnes handicapées physiques ou chien pour les familles d'enfants autistes. L'entraînement le plus compliqué, c'est l'entraînement du chien guide. Après ça, c'est pour les personnes en fauteuil roulant. Et par la suite, c'est de 3 à 4 mois d'entraînement pour le chien pour les familles dont les enfants vont présenter un TSA.
À partir de quel âge c'est pertinent ou adéquat pour un enfant autiste d'avoir un chien d'assistance?
Il n'y a pas d'âge, là, mais plus c'est comme un principe en psychologie où plus on intervient jeune dans le développement de l'enfant, plus qu'on a de chance de solutionner des éléments liés ou d'améliorer le développement de l'enfant. Fait que si on a un enfant, là, à l'heure actuelle, on a des enfants âgés de 3 ans. On a une très forte demande pour des enfants âgés de moins de 5 ans. La majeure partie de la demande, elle vient de familles dont les enfants sont âgés de 10 ans et moins.
OK.
Fait que dans le cadre de nos recherches, toutes nos familles étaient âgées. L'âge moyen, à l'heure actuelle, ça tourne aux alentours de 7-8 ans. Là.
Et justement, lié à cette demande-là, est-ce que Mira arrive à y répondre?
Oui, ça fait beaucoup, là. On attribue à un moment donné où, dans le cadre de nos recherches, mettons, en partant de 2003, de 2003 à 2013, on a travaillé en moyenne en attribuant 50 chiens par année. Dans des contextes de recherche. Et depuis 2010, on attribue dans le cadre d'un programme là, qu'on appelle le programme de la Scuola Mira. Et on a commencé à 50, 60 chiens, 2000. Puis là, en 2013, on attribue 100 chiens plus depuis 2013. Cette année, on a attribué 117 chiens. Et on pense que la demande est en train de se stabiliser aux alentours de 200 demandes par année. Et compte tenu des exigences liées à s'embarquer dans une telle démarche pour que ça ait des effets sur le développement de l'enfant et l'amélioration de toute la famille, on doit, les parents, c'est un bon investissement. Fait qu'on pense qu'on va pouvoir satisfaire la demande pour les années à venir en attribuant près de 120-130 chiens.
Et en terminant, on devrait agir comment avec un chien d'assistance? Avec les chiens guides, on le sait, les laisser travailler.
C'est la même chose. Oui? Okay. C'est tout la même chose. C'est pire un chien guide parce que, pensez juste au chien guide, ce qui est pire, c'est parce que la personne, elle ne vous voit pas.
Oui.
Tandis que l'autre, les personnes vous voient et souvent, on prend le temps de saluer les gens, peu importe les chiens, là. On fait pas ça, se garrocher sur un chien puis flatter le chien, puis on s'adresse à la personne, on lui dit bonjour, vous avez un beau chien, puis est-ce que c'est un chien de la Fondation Mira, on entreprend une conversation, puis si éventuellement les personnes, mais en règle générale, on ne touche pas au chien, on laisse travailler le chien pour pas le déranger dans son travail.
Ils se reconnaissent aussi bien, c'est-à-dire souvent lorsque l'on voit un chien guide, on le reconnaît. Est-ce que c'est la même chose pour
la même chose, ouais. Sauf chien guide, c'est vraiment des éléments liés à l'entraînement. Il y a une poignée sur le dos du harnais du chien qui sert comme un peu un joystick pour indiquer le chemin de direction à la personne handicapée de la vue.
Okay.
C'est un peu technique. Par exemple, comme pour une personne qui fait de la sclérose en plaques, il y a des capacités de marche. C'est un autre type de support sur le dos du chien. Et pour le chien, pour les enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, c'est un harnais où le logo de Mira est bien, est bien là, mais les chiens sont identifiés avec un harnais de Mira. Là. Et c'est comme ne pas s'occuper des chiens. Si des gens ne sont pas capables de se retenir, de flatter les chiens, on pourrait leur organiser un forfait d'une fin de semaine dans un enclos de la Fondation Mira. Toutes dépenses payées avec 4 chiens.
Ah ben, on vous les réfère, hein, Noël Champagne. Vous êtes psychologue et directeur de la recherche et du développement chez Mira. C'est un plaisir de vous parler, toujours un plaisir de parler aux gens de la Fondation Mira. Vous les saluerez d'ailleurs.
Bien, vous êtes bien gentil.
Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.